pour les éliminatoires du Mondial 2006. Le quintet à Auteuil, avec la combinaison gagnante de ce quintet, 7, 12, 9, 6 et 2. 7, 12, 9, 6 et 2. On part maintenant à la Bourse de Paris. Ah non, on n'a personne à la Bourse de Paris. Eh bien, si on a perdu nos amis de la Bourse de Paris, tant pis, on passe directement à 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, c'est à vous avec un peu d'avance.
Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire du plaisir. Ce fut alors qu'ils se pâmaient, que 5 à 6 fois ces amants, bouche à bouche et corps à corps, tantôt vivants et tantôt morts, entre eux se communiquèrent tout ce que l'amour a de doux. Corneille. D'histoire. En inventant la pilule il y a 50 ans, le docteur Pincus ne savait peut-être pas lui-même la révolution qu'il allait déclencher. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en dissociant le plaisir sexuel et la procréation, ce médecin américain donnait aux femmes le pouvoir de contrôler leur fertilité et d'éprouver du plaisir sans crainte d'avoir à en assumer les risques. La pilule mettait fin du même coup à des siècles de désirs interdits, d'humiliation et de tabous, qui interdisaient aux femmes d'éprouver du plaisir ailleurs que dans le mariage, et pour autre chose que pour assurer la reproduction de l'espèce. Encore fallait-il que les hommes sachent satisfaire ce droit au plaisir que venait d'obtenir leur partenaire.
Ferme les yeux ?
Non.
Est-ce pour les lèvres ?
Non.
Ça transpire sous les bras ?
Non, non.
Oh, merde, moi je raccroche. Je vois pas pourquoi je muserais le chibre. Ça, tu veux que je te dise, c'est un trou avec du poil autour et puis c'est tout. Rien qu'un voyant insensible. Allez, tu peux te remettre sur le dos, hein. Fini la nique. Rends le bol. Excuse-nous, Marion, j'en ai pas très fleur bleue, mais... Tu prends jamais ton pied ?
Je sais pas. Ça me dérange pas. Elles font comme moi, les autres filles.
Elles vivent. Elles se débattent, elles font du bruit, elles remercient avec les yeux.
Vous avez qu'à m'apprendre.
Robert Michelamblay, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce que Miu Miu n'a pas éprouvé dans les bras de Gérard Depardieu et Patrick Devers dans cet extrait des Valseuses, eh bien, vous venez d'y consacrer un livre, L'orgasme en Occident, qui vient d'être publié au Seuil, une histoire du plaisir que vous faites commencer au XVIe siècle, mais quand même, le plaisir qui existait, heureusement, bien avant, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, où l'on était d'ailleurs assez curieusement dans ce domaine beaucoup plus tolérant que dans les siècles qui ont suivi.
Tout à fait. On ne peut pas tout brasser, mais j'aurais bien aimé remonter jusqu'à l'époque antique. Michel Foucault l'a fait dans son Histoire de la sexualité. C'était un temps, en tout cas, nettement plus libéré, entre guillemets, que celui auquel je fais commencer mon livre. Effectivement, les plaisirs, et pas seulement les plaisirs hétérosexuels, les plaisirs homosexuels, aussi bien en Grèce qu'à Rome, sont bien connus. Effectivement, on aurait pu marquer le début de la civilisation occidentale à ce moment-là. J'ai préféré sauter quelques siècles.
Si vous commencez au XVIe, c'est parce qu'à ce moment-là que les choses changent, Robert Michelamblay.
Oui, c'est tout simplement qu'il y a une accélération de l'interdiction du plaisir qui se précise à peu près dans la foulée aussi bien du catholicisme que du protestantisme. C'est-à-dire c'est une nouvelle conjoncture européenne des deux grandes religions concurrentes qui en arrive à un certain consensus sur ce point. Le plaisir, ce n'est pas exactement ce qui permet d'atteindre Dieu.
Et notamment, le plaisir féminin est beaucoup plus condamné que celui des hommes. Vous citez un vieux proverbe, « Je lâche mes coqs, rangez vos poules ». Autrement dit, l'homme disposait de droits que la femme n'avait pas. Il y avait ce que vous appelez, Robert Michelamblay, un double standard sexuel.
Oui, on peut se demander. Oui, on peut se demander si le double standard n'a pas toujours existé, y compris depuis l'homme des cavernes. Mais en tout cas, on le voit très nettement se développer aussi bien au XVIe siècle qu'au XIXe siècle puritain. Il n'a pas entièrement disparu de nos jours. On pourra revenir éventuellement là-dessus. C'est en réalité le fait que le plaisir est certainement l'objet d'un pacte sexuel entre l'homme et la femme, et que ce pacte sexuel, par définition, est inégalitaire. C'est-à-dire que, jusqu'à une époque très récente, il était essentiellement au bénéfice de l'homme.
Alors donc, c'est la religion, nous y reviendrons, qui effectivement édicte les premiers tabous, les premiers interdits dans le domaine sexuel, parce qu'elle n'aimait pas que l'on fasse passer le plaisir du corps avant le salut de l'âme.
Maître, avez-vous jamais été amoureux ?
Amoureux ? À ma reprise.
C'est vrai ?
Oui, bien sûr. Aristote, Ovide, Virgile, Thomas.
Non, je voulais parler de...
Non. N'es-tu pas en train de confondre l'amour avec le désir ? Tu es amoureux.
Et c'est mal ?
Pour un moine, ça pose quelques petits problèmes.
Et enfin, saint Thomas d'Aquin ne place-t-il pas l'amour au-dessus de toute vertu ?
Si. L'amour de Dieu, Adzo. L'amour de Dieu.
Et l'amour de la femme ?
De la femme ? Thomas d'Aquin n'en était pas spécialiste. Mais les Écritures sont tout à fait claires. Les proverbes nous mettent en garde. La femme s'empare de l'âme précieuse de l'homme. Tandis que l'Ecclésiaste nous dit « Plus amère que la mort est la femme ».
Apprécié cette chanson, Robert Duchamblay, elle date du XVIe siècle.
Oui.
Écrite par une femme, à l'époque de Rabelais. Ramenez-moi à la cheminée, ramenez-la-moi au débat. C'est quand même étonnant, des propos comme cela, à l'époque où, vous le dites, la religion commence à réprimer les abus sexuels.
Pas vraiment, parce que vous savez, pour un historien, il y a deux choses différentes. Il y a les normes. Celles de l'Église sont traditionnelles, elles se développent au XVIe siècle, puis il y a les réalités. Les gens ne suivent pas obligatoirement les prescriptions. On le voit bien aujourd'hui avec la morale sexuelle telle que l'Église catholique souhaite à nouveau l'imposer. Donc, en réalité, le XVIe siècle est encore une période très gaillarde. C'est la période où les moines sont considérés comme libidineux. Hein. Rabelais, qui fut lui-même moine, en parle longuement. Donc, il faut absolument distinguer ce qui est la réalité quotidienne, l'expérience, y compris celle des paysans de l'époque, pouvaient être extrêmement intéressés par ce genre de choses, tout comme les rois, tout comme beaucoup d'autres personnes. Et puis les normes qui sont en train de devenir de plus en plus impératives.
Oui, parce qu'au début, quand même, ces normes qui sont dictées par l'Église, par les Églises, puisque la réforme va encore aggraver les choses, elles ont quand même évolué. L'Église n'est pas aussi répressive en matière sexuelle au début, justement, de son existence que plus tard. Je crois que le grand tournant, c'est le Concile de Trente, mais avant, il y avait des papes qui avaient des bâtards, qui avaient des maîtresses au vu au-dessus de tout le monde, des moines, vous le disiez, qui étaient gaillards. Donc c'est une évolution, c'est pas brusquement l'Église qui dit c'est comme ça depuis le début, pas du tout.
C'est une évolution, c'est même un peu une révolution. Et elle est parallèle à l'interdiction qui est faite aux prêtres catholiques, de se marier ou d'avoir une concubine ou d'avoir des relations sexuelles. Il faut effectivement attendre la fin du Moyen-Âge pour voir se profiler ces interdictions pour les prêtres, c'est le Concile de Latran au XIVe siècle, et pour les laïcs, il faut encore un peu plus de temps. Et entre-temps, il y avait des papes qui avaient des bâtards. On connaît bien la famille des Borgia, par exemple. Il y avait des évêques qui avaient des bâtards légitimés par les souverains. Donc, on est dans une situation où les normes deviennent de plus en plus contraignantes en tant que modèle, mais que modèle monastique, puisque la femme, comme disait l'un de vos interlocuteurs tout à l'heure dans un extrait, c'est un danger pour l'âme de l'homme. C'est
oui,
ça,
c'est pas un interlocuteur, hein, c'était un extrait du film Le Nom de la Rose. Alors justement, les églises, parce que la réforme elle-même ne badine pas avec le sexe. Hein,
non, sauf qu'elle a quand même inventé la possibilité pour les pasteurs de se marier.
Oui.
Donc, mais la réforme fait très attention.
Elle est très rigoriste dans ce domaine.
Elle fait très attention également, par définition. Le christianisme a comme idée que le corps et l'âme sont deux entités totalement différentes et que pour le bien de l'une, pour l'âme, il ne faut pas que le corps prenne trop d'importance. Et la définition de base, c'est que la sexualité licite ne peut avoir lieu que dans le mariage, pour ceux qui ont droit au mariage, pas pour les prêtres catholiques.
Alors, dans l'extrait que vous évoquiez, Robert Muchamblay, du Nom de la Rose, on entend ce moine, effectivement, qui parle et qui évoque saint Thomas d'Aquin pour dire « la femme, c'est abominable ». Et c'est vrai que cette répression sexuelle très antiféminine, parce que justement, la femme, c'est la sorcière, c'est d'elle que vient la débauche, vraiment, on véhicule d'elle une image absolument épouvantable. Vous citez ce médecin zélandais qui s'appelait Levinus Lemnius au début du 16e siècle et qui dit « la femme abonde en excréments et à cause de ses fleurs, c'est-à-dire ses règles, elle rend une mauvaise senteur, elle aussi empire toute chose et détruit leurs forces et facultés naturelles ». Alors, c'est vraiment terrible, elle est responsable de tout et de tous les débordements sexuels qui sont condamnés par l'Église, Robert Muchamblay.
Elle l'est par nature, non seulement à cause du péché originel, mais parce que pour les médecins qui reprennent des leçons de l'Antiquité dans ce cas précis, la femme est froide et humide, ses humeurs sont froides et humides, tandis que l'homme est chaud et sec. Et la femme froide et humide est tirée vers le bas, c'est-à-dire vers l'enfer, tandis que l'homme, lui, est naturellement poussé vers le haut, vers Dieu. Donc la femme est une alliée naturelle du démon. Elle est par nature dangereuse si on ne l'entoure pas d'une série de digues, d'interdictions. C'est évidemment une construction culturelle. C'est une façon de dire que la femme est inférieure. Et aussi, surtout, je crois, de dire qu'elle est dangereuse.
Alors, on interdit les perversions dont elle serait responsable, selon l'Église. Mais alors, en revanche, contrairement à ce qu'on croit souvent, on ne lui interdit pas le plaisir. On pense même, et ça montre bien d'ailleurs quelle méconnaissance on a du corps en général, et de la sexualité en particulier, on ne lui interdit pas le plaisir, car c'est le seul moyen d'obtenir ce pourquoi le mariage est fait et les rapports sexuels sont faits, à cette époque en tout cas, c'est la procréation.
Pour certains médecins, la majorité d'entre eux, effectivement, au XVIe siècle, ils croient qu'une bonne procréation doit impliquer le plaisir, car il faut qu'il y ait, dans leur théorie, émission de deux semences, une semence masculine et féminine, qui ne se fait que dans la conjonction du plaisir. Donc, pour des raisons médicales, en bon mariage, il faut du plaisir, mais c'est du plaisir contrôlé. C'est pas le plaisir des théologiens, c'est pas la volupté. Le plaisir n'est pas la recherche du plaisir pour le plaisir, vu par les médecins et par les théologiens. C'est un accompagnement pour obtenir un garçon, essentiellement, puisque la fille, elle est de la nature de la mère, c'est-à-dire qu'elle est plus négative, et pour avoir le meilleur produit fini, en d'autres termes.
Alors le plaisir, évidemment, mais pour la procréation et jamais en dehors du mariage.
Faites place au nom du roi, que tous apprennent par la présence que Madame Esther Prynne, femme de Roger Prynne, a été dûment condamnée pour avoir commis les crimes de fornication et d'adultère. Faites silence pour son excellence le gouverneur.
Madame, tant que vous ne révélerez pas le nom de votre complice, vous devrez porter à votre corsage ce symbole d'adultère et d'infâme fornication.
Si tu fais fi de ce dernier avertissement, à compter de ce jour, tu vivras en paria. Tu seras mis à l'écart, omis et repoussé par tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de cette ville.
Qu'est-ce que vous attendez? Et malgré-là, ce n'est pas la marque de ma honte, mais celle de la vôtre.
C'était
un extrait du beau film de Roland Joffé, Les Amants du Nouveau Monde, qui se passe dans le Massachusetts, une colonie britannique, donc au XVIe siècle, où on ne badinait pas, on vient de l'entendre, avec l'adultère, et où, de façon générale, on marquait au fer rouge, ou avec une lettre, je crois que c'est la lettre A, où les femmes qui avaient commis l'adultère, on ne badinait pas, d'ailleurs, avec tout ce qui était, faisait tous les plaisirs, toutes les perversions, entre guillemets, de l'époque, l'homosexualité, par exemple.
Oui. Juste au passage, signaler que il n'y a pas que les puritains qui pratiquaient ça. Sous Henri IV à Paris, on pouvait exécuter pour bigamie ou pour adultère, dans certains cas. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une interdiction, peine de mort, en tout cas pour bigamie très fréquente. Le Parlement ne suit pas pour l'adultère, mais les juridictions primaires condamnent à mort pour adultère. Donc, il n'y a pas que les puritains qui fonctionnent de cette manière. Et tout est perversion sexuelle, y compris d'ailleurs dans le mariage, puisque la seule chose licite dans le mariage est la position qu'on appelle du missionnaire, l'homme sur la femme, sans recherche de volupté, mais de plaisir au sens médical, et uniquement pour procréer. Toute autre chose dans le mariage est un péché. Et extérieur au mariage, ça devient parfois un péché mortel. Les péchés mortels sont particulièrement ce qu'on appelle la sodomie, masculine ou féminine. Ça inclut la bestialité. Une femme, vers 1600, est brûlée pour avoir eu des relations avec un chien. Elle est brûlée à Paris, au temps de Henri IV, pour avoir eu des relations avec un chien. Le chien est brûlé également, d'ailleurs. Et l'homosexualité, qu'on appelle la bougrerie ou la sodomie, est également passible du feu, puisqu'il s'agit de profaner le corps que Dieu a créé à son image.
Et aussi, il y a le plaisir solitaire, il y a l'onanisme, vous le rappelez, Robert Muchamblay, qui sera d'ailleurs interdit encore pendant très longtemps, réprimé, réprouvé. Alors cette fois-ci, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, mais plutôt en faveur des femmes, car on tolère plus le saphisme que la masturbation masculine.
Oui, parce que chez l'homme, c'était une croyance où il risquait une déperdition de sa substance, c'est-à-dire
C'est la procréation qui était en cause.
De sa vie. Il risque de mourir en pratiquant ça. Et en plus, c'est le péché d'onanisme, c'est-à-dire ne pas utiliser la semence pour l'objectif que Dieu lui a assigné. Et c'est plus grave, effectivement, chez l'homme.
Alors là, il y a quand même de plus en plus de tolérance au fur et à mesure que le temps passe, évidemment, au siècle, au début du règne de Louis XIV, sous la Régence, au siècle des Lumières, sous Louis XV, on voit se développer, apparaître d'abord sous le biais de la littérature, et d'une littérature carrément pornographique. Même d'ailleurs Corneille, on l'a entendu en début d'émission, se met à écrire des choses gaillardes. Il y a un livre qui a un énorme succès que vous appelez L'école des filles. Il y a toute une série d'écrits libertins avec de grandes signatures qui s'y mettent.
Le fil de Viau, etc.
Il y en a énormément. Vous les citez tous. Vous en avez lu. D'ailleurs, c'est beau. Dans votre livre, il y a énormément de citations de ce genre. Ça va avec Daniel Defoe, Sade, bien entendu, mais il y a aussi Mirabeau, enfin bref, Diderot, qui écrivent. À quoi correspond cette espèce de développement, cette multiplication des écrits gaillards, pour ne pas dire pornographiques ?
Je vais être très simple. À mon avis, c'est tout simplement une réaction contre la chape morale qui se fait de plus en plus pesante. Les interdits ont comme conséquence, je ne suis pas tout à fait Foucault sur ce point, ont comme conséquence indirecte de donner envie à certains de transgresser des normes qui sont de plus en plus épouvantables et qui, quelquefois, sont des normes qui menacent la vie de la personne en question. Quand on écrit un livre dit pornographique, on appelle ça un livre érotique à l'époque, on peut risquer la mort au XVIIe siècle. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu une très grande multiplication. C'est une littérature sous le manteau. C'est une littérature secrète. C'est un petit peu, en somme, l'inframonde de l'époque qui résiste à une série de chapes morales et politiques qui s'abattent sur la société.
Mais qui est de moins en moins lourde avec le développement au siècle des Lumières.
Absolument.
D'une libération des mœurs et des esprits à laquelle le 19e siècle va mettre un terme dans la France de Napoléon III, scandalisée par la Madame Bovary de Gustave Flaubert, ou l'Angleterre de la reine Victoria qui condamne Oscar Wilde à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité en 1895.
Oscar Wilde! The crime of which you have been convicted is so bad Oscar Wilde, le crime dont vous avez été reconnu coupable est si détestable que je dois prononcer la sentence la plus sévère que la loi autorise. La Cour vous condamne à une peine de prison aux travaux forcés de 2 ans.
Et le crime détestable d'Oscar Wilde, c'est évidemment son homosexualité. Robert Méchamblay, à vous lire cette période que vous appelez victorienne, qui concerne aussi bien la France que l'Angleterre de la reine Victoria, le 19e siècle en général, qui se prolonge même, dites-vous, jusqu'au la première moitié du 20e siècle, c'est sans doute la plus répressive dans l'histoire de la sexualité.
Oui, pour développer quelque chose qui est fondamental et qui est toujours fondamental chez nos amis américains, le mariage hétérosexuel comme fondement indispensable de la société. Tout ce qui est à l'extérieur est négatif, dangereux, mauvais. Mais ça développe aussi, vous vous en doutez, une pratique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le double standard masculin. Parce que l'homme contraint dans un mariage qui, au 19e siècle, dit que la femme n'a pas de plaisir ou pratiquement pas de plaisir. La femme honnête n'a pas de plaisir. Elle ne cherche pas la sexualité pour cela. Elle produit des enfants. L'homme, il est tolérable pour lui qu'il cherche le plaisir ailleurs. Donc il le cherche chez la prostituée, la seule qui puisse lui donner.
Et là, avec un développement de la prostitution, vous dites, qui est absolument hallucinant au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il ne profite pas à la femme mariée, qui est trompée, qui connaît son infortune, ni à la prostituée qui est considérée vraiment d'une manière épouvantable. C'est un égout séminal, je ne sais plus quel auteur l'appelle comme ça, c'est abominable.
Parent du Châtelet, oui.
Oui, alors du coup, c'est le statut de la femme qui dégringole encore un peu. Alors vous dites que là, cette répression, ces condamnations de toutes les perversions, entre guillemets, ne viennent plus de l'Église, qui d'ailleurs se fait de moins en moins entendre, mais de la médecine. C'est la médecine qui déconseille telle ou telle pratique. Vous citez le docteur Tissot qui affirme que la masturbation ne rend pas sourd, hein, c'est pire que ça, elle peut entraîner la mort. C'est le docteur Bertillon qui démontre que l'amour avant 21 ans aboutit à d'épouvantables dangers pour la santé. C'est le nouveau prêtre, le médecin de l'époque.
Tout à fait, et le médecin prétend non pas que la masturbation risque d'entraîner la mort, mais qu'elle entraîne obligatoirement la mort dans un délai extrêmement court, qu'en moins d'un an, un jeune homme meurt dans les plus atroces souffrances. Il s'agit effectivement d'une nouvelle manière de dire, sans religion dans ce cas précis, que le corps de l'homme doit être économisé et que toute évacuation séminale qui n'est pas destinée à produire des enfants est une déperdition dangereuse pour lui. Ça le fait mourir. Et à tel point que certains médecins prétendent qu'après 50 ans, il faut s'abstenir de relations sexuelles chez l'homme, sinon c'est extrêmement dangereux pour lui.
Alors cela dit, ces normes que vous qualifiez de victoriennes, qui sont valables aussi pour les États-Unis, pour l'ensemble de l'Europe continentale, eh bien on s'aperçoit qu'elles ne sont plus du tout respectées, et on s'en aperçoit aux États-Unis. En 1948, vous évoquez, avant même la pilule, un rapport considérable, parce qu'il révèle qu'il n'y a rien, il n'y a aucun rapport entre la réalité de ce qui se pratique sur le plan sexuel et les normes. C'est le rapport Kinsey de 1948.
Kinsey sur l'homme, 48, et quelques années plus tard sur la femme. Un énorme rapport. On peut d'ailleurs se demander si, au fond, les normes sont régulièrement suivies dans quelques pays que ce soit. Kinsey montre simplement que les normes sont épouvantablement dur aux États-Unis, c'est-à-dire que les lois interdisent toute relation sexuelle à quiconque n'est pas marié. Un veuf n'a plus le droit aux relations sexuelles dans les normes, dans les lois de l'époque. Mais qu'en pratique, personne ne suit. Et qu'en réalité, on n'est pas hétérosexuel par nature, mais que dans sa vie d'homme, il y a un continuum, on peut être homosexuel, puis hétérosexuel, et ainsi de suite.
Enfin bref, il découvre des choses qui révèlent une espèce de libération sexuelle qui se fait au fond sous le manteau. Première étape vers une libération sexuelle qui est encore contrariée d'ailleurs par la peur d'avoir un enfant, une peur qui disparaît avec l'apparition de ce qui est, selon vous, Robert Méchamblay, le produit le plus révolutionnaire du siècle, la pilule contraceptive, commercialisée aux États-Unis en 1960 et en France par la loi Neuwirth en 1967.
À une écrasante majorité, les députés ont adopté la loi sur la régulation des naissances et les contraceptifs connue également sous le nom de loi de Wirth ou de loi pilule.
Bah, je m'en réjouis parce que je pense que c'est une condition essentielle de la libération de la femme actuellement.
Je suis contre. La nature, c'est la nature.
Et là, je suis absolument pour la pilule, pour la liberté de la conception. Il est normal que les Françaises puissent avoir des enfants quand elles le veulent.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Alors, dans l'histoire du plaisir, dans votre histoire du plaisir, Robert Michambé, c'est évidemment le grand tournant, 1960 aux États-Unis, 67 en France, la pilule. Plus rien n'est comme avant.
Plus rien.
Avant dans le rapport entre les hommes et les femmes.
La disjonction possible entre le plaisir d'un côté, l'orgasme, et la procréation. C'est-à-dire deux choses qui avaient toujours été directement liées dans l'esprit masculin, ce qui était un moyen, dans tous les cas, de tenir les femmes sous tutelle, puisque le plaisir était par obligation dangereux avant cela. C'est la première fois depuis probablement notre époque préhistorique où quelque chose a fondamentalement changé par rapport à cette loi, entre guillemets, dictée par les hommes.
Première étape vers la disparition d'autres tabous, comme je pense à l'homosexualité, bien sûr, le mariage gay, la façon dont elle est considérée. Et pourtant, est-ce que ces révolutions sexuelles sont réversibles, Robert Michambé? Parce qu'après tout, on voit bien qu'aux États-Unis, où est née la pilule, où a été inventée la pilule, eh bien, on observe un retour à l'ordre moral qui n'apparaît pas encore en France ou en Angleterre.
Il y a deux manières de vous répondre. L'une à laquelle je ne tiens pas trop, qui est oui, ça peut être réversible puisqu'on le voit aux États-Unis et que la barbarie est toujours à nos portes, c'est-à-dire que l'on peut avoir effectivement des retours en arrière. La deuxième, plus optimiste, est de penser que les relations hommes-femmes ont fondamentalement changé. Et que désormais, l'aspect de liberté qui a été créé non seulement par la pilule, mais par le fait que le jeu de domino a tout balayé et a créé une liberté féminine extraordinaire, avortement, etc., peut laisser l'impression que on n'aura plus jamais des phénomènes du type de ceux qu'on a vécu pendant 500 ans.
Merci Robert Michambé. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, L'orgasme et l'Occident, une histoire du plaisir du 16e siècle à nos jours et qui vient d'être publié aux éditions du Seuil. À lire également sur le sujet, quand il paraîtra d'ailleurs, le dictionnaire de la pornographie qui va paraître au PUF en novembre. Vous avez pu entendre des extraits des Valseuses de Bernard Blier en DVD chez Pioneer, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery, disponible en DVD chez Warner Home Video, Les amants du nouveau monde de Roland Joffé avec Demi Moore, disponible en vidéo chez UGC, enfin Wilde de Brian Gilbert avec Stephen Fry dans le rôle d'Oscar Wilde en DVD chez Universal Records. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes d'euros la minute, tous sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Clotilde Thomas, Jessica Fouché, Camille Poux et Claire Tesser. Et à la réalisatrice, bien sûr, Anne Kobilac. Demain et après-demain, nous rappellerons...